c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de la Colombie, de Mexique, de Guatemala, de France-Mexique et de France-Brésil. Et vous allez découvrir. Alors, je laisse la parole à Béatrix pour qu'il nous parle des problèmes...
La biodiversité qui est en otage.
Voilà, oui.
D'après un article paru dans le magazine Challenge, le chantage à la déforestation pèse sur les négociations de paix entre les groupes armés et le gouvernement. Une menace de plus pour l'environnement déjà victime de trafics illégaux. Le président Gustavo Petro, qui revendique le leadership de l'environnement, avait placé la conférence de la biodiversité COP16 sous le slogan « Paix avec la nature ». Le pays connaît une reconfiguration de son conflit armé, avait-il dit. Un contexte lié aux négociations que le président tente de mener avec tous les acteurs armés autour de la table, les guérilleras encore actives en politique, mais aussi les narcotrafiquants. La Colombie, comptant la deuxième biodiversité la plus riche au monde, le conflit armé interne est indissociable de la bataille pour les ressources naturelles, à la fois cause et conséquence de la guerre. Culture illicite de coca, élevage extensif, trafic de bois ont financé par différents biais les groupes armés illégaux qui ont tiré profit de la précarité économique de populations délaissées par l'État. Dès lors, la diversité devient un outil de chantage idéal dans la biodiversité. Idéal dans les négociations de paix avec le gouvernement. Dans un contexte où le gouvernement peine à imposer ses conditions, la paix avec la nature, qu'il appelle de ses voeux, semble encore loin d'advenir.
Thank you. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler du Mexique, en particulier d'un arrondissement de la capitale, Mexico, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui. Des utopies bien réelles inscrites au cœur de sa capitale, Mexico. Élue maire de la capitale mexicaine en juin dernier, Clara Brugada s'est fait connaître en lançant des lieux étonnants et colorés, redonnant vie à des quartiers populaires et peu sûrs. La télécabine glisse lentement dans le ciel bleu d'Iztapalapa, survolant des maisons basses typiques de ces quartiers populaires et périphériques de Mexico. Le long des rues étroites, des marchés informels de vendeurs de tacos et de vêtements bon marché. Hier, rural, Iztapalapa a vu les familles affluer à partir des années 1970, au point de devenir l'arrondissement le plus peuplé de Mexico, avec près de 2 millions d'habitants se débattant entre pauvreté et précarité. Mais soudain apparaît la queue d'un avion sur une petite place, une scène surréaliste. Il s'agit d'un Boeing posé en plein jungle de béton. C'est l'utopie. Pour unité de transformation et d'organisation pour l'inclusion et l'harmonie sociale, un centre culturel et éducatif. Alors, il est arrivé comment, cet avion?
Oui, en fait, c'est intéressant de préciser que ce vieil appareil a été démonté, transporté, puis remonté sur place. Voilà, oui. On lui a donné un coup de peinture, dessiné son nom sur ses flancs. Voilà.
Oui, alors des jeunes répètent des morceaux de rock avec un professeur. Les sièges ont laissé place à des ordinateurs, à des tables et où les coffres à bagages sont remplis de livres. Sur le planning des activités, il y en a pour tous les goûts. Musique les samedis et jeudis, danse de salon les mardis, danse folklorique les mardis et samedis, échecs les mercredis.
Voilà la musique folklorique de Mexique. Et justement, nous allons faire la suite à cet curieux arrondissement de Mexico, la capitale.
Oui, alors Clara Brugada, économiste de formation, née dans une famille originaire de Chiapas, maire donc de la capitale Mexico depuis le 1er octobre, représente la gauche de terrain au sein du parti au pouvoir, Morena. Pour elle, ces utopies dénoncées comme des gadgets par la droite sont une façon de reconquérir des territoires tout en proposant des activités à des populations longtemps délaissées. Le dernier de ces lieux colorés à avoir vu le jour est l'utopie Barco, un vaste bâtiment en forme de paquebot de 4 étages. Ce lieu, géré par une vingtaine de personnes, est consacré principalement au changement climatique. Un petit musée enseigne le dérèglement de la nature. Un aquarium digital permet aux enfants de faire connaissance avec l'océan et de découvrir les dégâts liés à la population marine. Ici aussi, des cours sont proposés, toujours gratuitement, de l'informatique, de la vidéo, etc. Au premier étage du paquebot immobile, une exposition aborde aussi, avec l'aide de l'UNICEF, la question des violences et des discriminations sexuelles à l'adresse à la fois des enfants et de leurs parents. Aujourd'hui, Iztapalapa est fière de ses utopies.
Oui, il faut quelques repères encore. Les câbles bus, donc un téléphérique urbain pour désenclaver les périphéries de Mexico. Depuis 2021, les câbles bus circulent dans le seul d'Iztapalapa, l'un des 16 arrondissements de Mexico. Il ne faut pas l'oublier. Les câbles bus donc fonctionnent en continu, chaque cabine permettant d'embarquer jusqu'à 10 passagers. Et à Iztapalapa, deux lignes de câbles bus permettent à la population d'accéder au terminus de deux lignes de métro. Voilà donc pour désenclaver ces populations parfois délaissées. Si Adelita se fuera con otro, voilà, encore de folklore mexicain. Mais nous allons parler d'un pays, on ne parle pas souvent, d'un pays de l'Amérique centrale, du Guatemala, et une forêt maya, n'est-ce pas Béatrix?
Oui, une forêt maya exemplaire. En pratiquant une civiculture durable, les communautés locales ont réussi à stopper la déforestation. La tronçonneuse s'arrête. Il y a d'abord le bruit, crac, puis la terre tremble, les arbustes s'écrasent comme des allumettes. Le fracas s'intensifie lorsque l'acajou d'Amérique tombe et rebondit. Puis le silence est total. Ce bois noble est l'une des 14 espèces qui peuvent être coupées durant la période d'abattement octroyée à des concessions forestières communautaires dans la réserve de biosphère Maya, dans le nord du Guatemala et de la selva Maya, qui s'étend du Mexique à la forêt du Darién au Panama. Il s'agit d'un massif forestier de 14 millions d'hectares, parmi les plus importants à l'échelle mondiale, un corridor naturel clé entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, un endroit important de la biodiversité, explique Marie-Ange Nego, écologue française du Centre de coopération internationale à Montpellier. Les habitants, tous associés dans la concession, ont décidé que les bénéfices de l'exploitation iraient dans l'éducation, le fonctionnement de l'école primaire et du collège et le versement de bourses pour l'éducation supérieure loin du village. Ces concessions nous enseignent comment ceux qui vivent de la forêt savent la protéger, indique Marie-Ange Nego.
N'oubliez pas, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son des radios libres en Périgord. Et nous allons parler d'un livre écrit par un journaliste correspondant du journal Le Monde au Mexique pendant 10 années. N'est-ce pas,
Béatrice? Oui, il s'agit de Frédéric Saliba qui a écrit un livre qui s'appelle Cartel. Il était ancien correspondant au Mexique du journal Le Monde et raconte l'incapacité des 3 derniers présidents du Mexique à lutter contre les cartels multinationales du crime. Frédéric Saliba raconte 18 ans de lutte contre les narcotrafiquants. L'ouvrage constitue un portrait de la classe politique mexicaine, tantôt impuissante, tantôt corrompue, et de son échec patent à endiguer la violence inouïe de ces multinationales du crime. La nouvelle présidente Claudia Sheinbaum, investie le 1er octobre dernier, compte poursuivre la stratégie de son prédécesseur basée sur la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la garde nationale. Un nouveau corps militaire créé au détriment des polices locales et fédérales, elle aussi infiltrée par les cartels. Et voici un extrait de son livre, la page 376. La structure hiérarchique de la fédération mafieuse n'est pas pyramidale. Elle est horizontale autour de dizaines de clans. Son organisation fonctionne comme une coopérative. Chaque famille conduit ses affaires comme elle l'entend, dans un esprit clanique. Les fractions s'associent autour d'un état-major pour mutualiser les coûts. À charge pour lui de gérer les livraisons groupées ou les versements des importants pots de vin.
Oui. On peut ajouter que quant à l'organisation des entreprises mafieuses, on imagine à tort qu'il s'agit de groupes homogènes sous les ordres d'un chef. Voilà. Donc, cet livre qui s'appelle Cartels, vous pouvez le trouver aux éditions du Rocher. Ce bouquin a 416 pages. À 19,90 €. Voilà, donc nous allons passer à la musique. Nous allons vous parler d'une peintre brésilienne, pas très connue en France, Tarsila do Amaral.
Oui, qui est peintre brésilienne et qui expose au musée du Luxembourg à Paris. Tarsila do Amaral, 1886-1973, nommé par son seul prénom par ses compatriotes brésiliens, qui l'aperçoivent comme une star à l'égard d'une Frida Kahlo au Mexique, semble être l'artiste d'un paradoxe. Immense figure tutélaire moderniste dans son pays, sa peinture demeure pourtant méconnue en France. Le musée du Luxembourg s'applique à réparer cette méconnaissance en revenant sur l'axe Paris-Rio-São Paulo au temps des avant-gardes. Cette première rétrospective, composée de plus de 150 peintures, dessins et documents, devrait signer la réhabilitation de la brésilienne. On ne peut en douter tant son œuvre séduit. Issue de la haute bourgeoisie, collectionneuse et peintre, Tarsila fait de 1920 à 1932 de multiples séjours à Paris. Elle apprend de Fernand Léger, se lie avec l'écrivain Blaise Cendrars ou le compositeur Héctor Villa-Lobos. Revenue chez elle, elle invente un art propre, soit de multiples toiles primitivistes, éclatant de couleurs pures, empruntant autant à l'art populaire qu'à une culture indigène. L'artiste déclarait à la fin de sa tumultueuse vie « On ne le croira pas, mais c'est au Brésil que je suis entré au contact de l'art moderne. »
Oui, n'oubliez pas, c'est donc une exposition au musée de Luxembourg jusqu'à le 2 février 2025, si vous avez envie d'aller à Paris pour découvrir cette peintre brésilienne Tarsila do Amaral. Notre émission touche à sa fin, l'émission L'Autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos sur ce continent et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto. Diz-lhe numa prece.
digresse porque não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois ame-nos peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais desse negócio de você viver sem mim.